Audiolib présente Une vie de lumière et de vent de Christian Signol, lu par Jean-Marc Delos. À Louis, né en 2013. Qu'est-ce que le destin, sinon la densité de l'enfance? Jim Harrison. Première partie, le vent. Chapitre 1. Là-haut, ce n'est pas seulement la désolation du plateau qui fait peur, mais la folie de ces roches qui ignorent le silence. Elles se querellent, se battent avec le vent qui veut les faire taire et ne parvient qu'à les exaspérer. Ce sont de grands blocs qui gîtent là depuis que le monde est monde et auxquels on ne peut pas raconter d'histoire. Ce sont eux qui les racontent, les histoires, mais il vaudrait mieux ne pas les entendre. D'ailleurs, personne, ou presque, ne les entend. Sinon quelques âmes dolentes qui ne s'interrogent plus sur rien, ni sur le fait d'être là, d'y vivre et d'y mourir, pour aller où après, Seigneur? Quelle importance quand on a bu le ciel pendant des années, quand on s'est mesuré aux étoiles, quand on a passé outre aux dévastations de l'existence, aux jours de grand silence, aux nuits de grande peur. Il s'appelait Jean Dolin. Il savait que l'on ne peut s'aventurer sur ces solitudes sans avoir assuré ses arrières. Il s'était juré de ne pas rester, de redescendre une fois parcouru le désert lunaire, couvé par un ciel immense sur lequel il avait grandi. C'était un enfant trouvé le jour de la Saint-Jean, au milieu des fleurs d'une doline. Un cheminot avait eu pitié de lui, il l'avait ramassé, descendu dans la vallée. Le pays de l'eau, le berceau de l'herbe, de la terre grasse, des parfums tièdes, de la tendresse, des sourires. Mais Jean ne les avait jamais connus. Le maire, qui lui avait donné son nom à cause de la Saint-Jean et de la doline, l'avait confié à l'assistance qu'il avait renvoyé impitoyablement vers le Causse-Méjean, où une pauvre femme s'était débarrassée de lui en lui donnant le jour. Il y avait 21 ans de cela. 21 ans qu'il s'accrochait à la vie, comme sur ces versants s'accrochent les genévriers de toute leur pauvre force, on se demande bien pourquoi. Qu'est-ce qui les pousse, les arbustes et les hommes, à s'agripper à la désolation, sinon une curiosité maladive pour ce qui ne les concerne pas? Ils dépérissent, s'atrophient entre la terre et le ciel, dans un combat dont on ne discerne ni les causes ni les effets, une sorte d'affrontement tellurique d'un autre âge, plus probablement d'une autre ère. Oui, pourquoi remontait-il là-haut, Jean Dolin? Pour tenter de retrouver cette mer qu'il avait livrée aux langues d'herbe grise autour des Lavognes, aux avennes qui plongent vertigineusement au fond des gouffres où l'eau tapit, pactise avec les lamentations inquiétantes des roches? Et pour apprendre quoi? Qu'une pauvre fille de ferme avait été engrossée par un colporteur de passage, où le maître du mât s'était caché pour ne pas être chassé, libéré de l'enfant du péché dans un creux à l'abri du vent, puis avait regagné les murs d'une bergerie, bête docile qui n'existait qu'au contact des autres bêtes, de leurs grands yeux apeurés, de leur langue douce, aux mains ravagées par les outils, les lessives, les cristaux du gel, les caresses traîtresses de la neige. Oui, mais cet homme nu voulait aussi comprendre comment il avait pu vivre là pendant si longtemps, avant que ne s'ouvre devant lui le vaste monde, les horizons bleus, les plaines dorées, les vallées riantes, loin des navires noirs des nuages, des tempêtes de l'âme, des peurs atroces de l'enfance. Comment avait-il pu subir ce qu'il avait subi sans jamais se rebeller? Pour la seule raison qu'il n'avait connu que la soumission, le silence, et sur sa bouche la main du vent qui régnait là-haut et dictait sa loi immuable, impitoyable aux bêtes et aux hommes. Combien de fois Jean, dévasté par la peur au fond de sa solitude, l'avait-il vu s'ébrouer ce vent,